Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast Café littéraire. Deux lycées ont étudié plusieurs livres différents, voici les revues d'aujourd'hui. Sur la route de Jacques Kerouac, Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, 1984 de George Orwell, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, La Peste d'Albert Camus, Des souris et des hommes, Le blé en herbe de Colette, La place d'Annie Ernaux, Le portrait de Dorian Gray, Mémoire d'une jeune fille rangée et La vie devant soi. Je vous laisse avec la première lecture.
Bonjour Satine.
Bonjour Milo.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien, écoute. Est-ce que tu as un nouveau livre à nous proposer aujourd'hui?
Alors oui, cette semaine j'ai lu Des souris et des hommes de John Steinbeck.
Qui est John Steinbeck?
Alors c'est un romancier du 20e siècle. Il a vécu aux États-Unis, plus précisément en Californie. Et il défend diverses idées.
Quelles sont ses idées donc?
Alors il cherche à défendre le fait qu'il y ait des inégalités entre les hommes, puisque pour lui, certains hommes écraseraient d'autres, alors que ce serait pas forcément justifié, voire totalement pas justifié d'ailleurs. Et ce serait aussi le cas par rapport aux animaux.
Très bien. Parle-moi de ce livre.
Alors dans ce livre, on suit donc deux personnages qui s'appellent Lenny et George. Lenny lui souffre d'un problème mental qui fait qu'il a un retard par rapport aux autres. Et George, lui, à l'inverse, est très perspicace, plutôt très en avance et mature. Et ainsi, les deux se complètent. Et durant le livre, ils vont chercher à réaliser leur rêve, qui est de créer une ferme ensemble. Mais malheureusement, à cause de leur différence de caractère, ça ne pourra pas se passer.
D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé du livre?
Alors, j'ai bien aimé déjà le fait que ce ne soit pas sur un sujet qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de romance, c'est des choses qui dénonce finalement la réalité. Et ça, je trouvais ça très intéressant, mais ce que j'ai pas forcément aimé, c'est la chute. Mais je trouve que l'histoire est très intéressante puisqu'on découvre des réalités de la société.
As-tu des citations à nous proposer?
Alors oui, j'en ai une qui montre ce que l'auteur cherche à dénoncer et à illustrer à travers le livre. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui est vraiment malin et c'est bien rare qu'il soit un bon gars.
Que veut dire cette citation?
Il cherche à montrer que malgré les stéréotypes de la société, c'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent qu'un autre que ça fait de lui quelqu'un de supérieur, et que des fois, on serait surpris de voir que quelqu'un qui serait dit comme non intelligent serait finalement très perspicace.
Enfin, est-ce que tu recommandes ce livre?
Alors oui, je le recommande déjà parce qu'on apprend beaucoup de choses. Aussi, on parle de sujets qu'on connaît vraiment pas, des sujets qui seraient même tabous dans la société. Et franchement, j'ai adoré lire et j'ai trouvé ça plutôt simple d'ailleurs.
Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant du roman « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone Beauvoir.
Simone de Beauvoir est une figure majeure du féminisme au XXe siècle, mais elle était aussi une professeure de philosophie et une éditrice française. Simone de Beauvoir est à l'origine du manifeste des 343.
Malgré cette bonne image que nous avions d'elle, il y a eu plusieurs révélations. Nous avons d'abord appris qu'elle a signé une tribune qui défendait un pédophile. Cela n'est pas étonnant puisqu'elle a eu des relations elle-même avec des élèves mineurs qu'elle draguait, puis envoyée vers Jean-Paul Sartre. Elle a aussi tenu des propos antisémites et défendu un terroriste et Staline.
Les mémoires d'une jeune fille rangée est un roman autobiographique publié en 1958. Il nous transporte dans son enfance ainsi que dans son adolescence, en passant par la création de son identité ainsi que par la découverte de la sexualité.
Dans ce récit, Simone de Beauvoir explore des thèmes profonds tels que l'éducation, l'importance de l'approbation des parents, la sexualité et l'indépendance des femmes. Elle nous invite à réfléchir sur la construction de l'identité féminine et sur la manière dont les normes sociales peuvent limiter notre épanouissement.
Nous allons vous présenter les deux situations qui nous ont marquées.
On ne naît pas femme, on le devient. Cette citation nous exprime que la féminité n'est pas innée. L'éducation joue un rôle dans la formation de l'identité.
J'étais et je demeurerai toujours mon propre maître.
Cette citation
nous montre que l'indépendance qu'elle a toujours eue et sa confiance en elle, ainsi que l'autorité qu'elle a envers elle-même et les autres.
C'est pour moi un livre enrichissant et qui doit être lu pour élargir notre culture générale. Cependant, le surplus de détails peut rendre votre lecture compliquée.
Nous espérons que ce podcast vous a donné envie de plonger dans les mémoires de cette jeune fille rangée. N'hésitez pas à nous partager vos ressentis après avoir lu ce livre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de La vie devant soi, écrit par Romain Gary. Romain Gary est un écrivain franco-russe du XXe siècle. Sa vie a été très chargée, il a eu plusieurs métiers, écrivain, aviateur, diplomate, réalisateur, et il a eu 3 femmes. Cela lui a permis d'avoir une liberté d'écriture que l'on ressent dans ses livres, dont son franc-parler.
Il écrit ce roman en 1 semaine et le publie sous le nom d'Émile Ajar pour être jugé sur sa qualité d'écriture seulement, pour que son nom n'influence pas les critiques. Gary signifie brûle en russe, qu'il a remplacé par Ajar, qui signifie braise, et qui était le nom d'actrice de sa mère.
L'auteur a reçu 2 fois le prix Goncourt. Il s'est joué du concours. Le règlement n'autorise de participer qu'une seule fois. Or, sous le nom de Romain Gary, il a gagné le prix. Et à sa mort, on découvre qu'il était également Émile Ajar, qui avait reçu un prix pour le livre La vie devant soi.
Dans ce roman, l'on suit Momo, qui raconte sa vie à Belleville. Depuis ses 3 ans, il est gardé par Madame Rosa, une juive rescapée d'Auschwitz, prostituée à la retraite et qui est maintenant gardienne d'une pension clandestine pour les enfants des prostituées. Au fur et à mesure du roman, on s'attache à la relation entre Momo et Madame Rosa. Il ne vous reste plus qu'à lire cette œuvre pour comprendre le passé et le futur terrible de ces 2 êtres de papier.
Pour illustrer tout cela, j'ai choisi quelques moments importants. En début, nous avons l'introduction de Madame Rosa. Les premières pages du livre introduisent Madame Rosa et son rôle crucial dans la vie de Momo. On découvre une femme résiliente qui, malgré ses propres démons, se dévoue aux enfants qu'elle élève. En 2, nous avons la découverte de la vérité sur les origines de Momo. Momo apprend des vérités bouleversantes sur ses parents biologiques et son identité, ce qui constitue un moment clé dans son développement personnel. En 3, nous avons la dégradation de la santé de Madame Rosa. Le déclin physique de Madame Rosa met en lumière les thèmes de la vieillesse et de la mortalité, tout en renforçant le lien entre elle et Momo. En 4, et pour finir, nous avons la décision de Momo de rester avec Madame Rosa jusqu'au bout. Momo choisit de rester aux côtés de Madame Rosa jusqu'à sa mort, démontrant un profond sens de loyauté et d'amour.
Voici quelques citations intéressantes du roman. On peut vivre sans amour, mais on ne peut pas vivre sans avoir un sens à sa vie.
Cette citation introduit le thème crucial de la quête de sens dans un monde cruel, souvent cruel et indifférent.
Il y avait toujours une putain pour nous sourire dans le quartier, mais jamais une maman.
Momo parle de l'absence d'une figure maternelle dans sa vie, soulignant la dure réalité de son environnement.
Madame Rosa, elle avait son cœur qui battait dans sa poitrine comme tout le monde, mais elle, c'était pour tout le monde qu'il battait.
Momo exprime ainsi son admiration pour Madame Rosa, qui malgré sa propre souffrance, montre une grande compassion pour les autres.
Je savais que quand on aime quelqu'un, il faut le protéger contre le monde entier.
Cette citation illustre le lien profond et protecteur qui unit Momo à Madame Rosa.
J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est tendre, lumineux, doux, triste, comique, mais surtout actuel. En effet, il traite de problématiques toujours d'actualité, comme le racisme, les problèmes de religion, la fin de vie, l'enfance, l'amour des autres, la prostitution. C'est un récit à hauteur d'enfant, avec des erreurs syntaxiques qui reflètent l'innocence de Momo face à la vie.
Dans ce roman, Romain Gary nous plonge dans un environnement pauvre, vu à travers les yeux de Momo, qui reflète la sensibilité et le grand cœur de Madame Rosa pour accueillir des enfants de prostituées, sans argent, sans ascenseur, malgré sa maladie. Je pense que c'est pour ça que j'ai plutôt aimé ce livre, car il aborde des sujets assez touchants.
Aujourd'hui, on va vous présenter Le blé en herbe, écrit par Colette en 1923. Colette, de son vrai nom Sidonie Gabriel, est une femme de lettres, actrice, journaliste française. C'est la 2e femme élue membre de l'Académie Gourgon en 1945, dont elle deviendra présidente. Le premier livre de Colette est Claudine à l'école, édité au nom de son mari en 1900. Colette est une femme bisexuelle et travestie. C'est ce qui la démarque des autres femmes à son époque.
L'intrigue nous parle de 2 ados, Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, qui sont en vacances en Bretagne, près de Saint-Malo, au bord de mer. Ils sont amis depuis leur plus tendre enfance et se voient confrontés à leur amour et le passage à l'âge adulte. Cette histoire compte l'initiation sentimentale et sexuelle, mais aussi l'amour inavoué qui subit plusieurs rebondissements, ce qui ajoute du suspense à l'intrigue. On le voit dans les deux citations que nous avons choisies. La première, « Elle avait crié « Je t'aime » comme on crie « Adieu » et « Je ne peux plus te quitter » à la page 25. Et la deuxième, « Devenir un homme, c'est peut-être cela » à la page 102.
Notre groupe de lectrices n'a pas particulièrement apprécié ce roman de Colette, bien que ce soit un roman d'amour qui se révèle hors code, à cause de son style d'écriture compliqué et trop soutenu, malgré l'intrigue très prometteur.
Oscar Wilde est un écrivain irlandais du 19e siècle. Il est notamment connu pour avoir été enfermé parce qu'il était homosexuel. Mais dans cette prison, la prison de Reading, il a écrit plusieurs livres. Mais le livre dont on va parler aujourd'hui, Le portrait de Dorian Gray, n'a pas été écrit dans cette prison. Donc ce livre a d'abord été censuré plusieurs fois à cause de l'homosexualité apparente. Mais Oscar Wilde a réussi à le faire paraître. De plus, avec ce livre, il a démocratisé l'art pour l'art. C'est-à-dire que ce courant pense qu'il ne faut pas chercher le message caché derrière une œuvre, mais plutôt la contempler. Il est mort en 1900 et est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris, bien qu'il soit irlandais.
Du coup, je vais vous faire un bref résumé de l'auteur. Le peintre Basil Hallubard vient d'achever son meilleur tableau. Invité à se contempler, Dorian Gray, son modèle, fait alors un vœu insensé que le portrait vieillisse à sa place et que lui conserve éternellement sa jeunesse et sa beauté. Quelles ne sont pas sa stupeur ? Et son vœu se réalise. Le tableau devient alors le miroir de son âme.
Je vais maintenant vous faire part d'une citation très importante de ce livre. Si c'était moi qui toujours devrais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir, pour cela je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais, mon âme même. Cette citation est importante car c'est à ce moment-là que le roman prend une toute autre tournure. Et c'est avec cette citation que l'histoire débute réellement.
Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, notre œuvre, c'est 1984 de George Orwell. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est un écrivain et journaliste britannique, né en 1903 en Inde et mort en 1950 à Londres. Petit fait intéressant pour plus tard, George Orwell a été placé en internat pendant ses années de collège et il en garde un très mauvais souvenir. Il décrit ce lieu comme oppressant et limitant toute liberté, il n'avait le droit de rien faire. Il est aussi rentré dans une milice anti-guerre au cas où l'Allemagne débarquerait en Angleterre, en 1940. Nous allons ensuite enchaîner sur nos impressions de lecture. Alors toi Aurélio, t'en as pensé quoi ?
Alors dans mon cas, moi j'ai pas lu le livre jusqu'à la fin, mais j'ai quand même apprécié la moitié du livre. Déjà du fait que le livre se rapproche beaucoup de la guerre et surtout sur l'URSS. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est celui où George Orwell parle des 2 minutes de haine, dans lesquelles on nous exprime toute une haine envers les prolétaires et la caste moyenne qui sont en permanence en plein doute et doivent user de différents stratagèmes dont la double pensée, afin de s'adapter en permanence à la situation mise en place et par les membres de la caste supérieure. Et surtout sur Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, qui est considéré comme une forme de milice armée et qui représente un danger pour le pays, l'Océanie. Tout ça pour dire que dès le début, nous sommes entraînés dans une ambiance macabre et vraiment très dystopique. Et toi, Eline, t'en as pensé quoi ?
Du coup, moi j'ai énormément apprécié le livre, je lui donnerai la note de 4 sur 5. J'aime beaucoup les dystopies. J'avais également lu La ferme des animaux de George Orwell. Je trouve que les deux livres représentent bien le régime totalitaire. Notamment, en 1984, je trouve que ça se rapporte plus du communisme avec la notion de du coup, non-individualité. J'ai beaucoup aimé comment il expose les différents moyens de torture, de contrôle, etc. Par contre, j'étais un petit peu déçue de la fin. Je m'attendais vraiment à autre chose. Et toi, Noah, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Moi personnellement j'ai aussi bien apprécié le livre, je mettrai une note de 4,5 sur 5. J'ai bien aimé aussi, comme ma camarade Lynn vient précédemment de le dire, parce que c'était une dystopie. J'aime bien aussi le fait que George Orwell se soit projeté dans le futur. C'est en effet un visionnaire, c'est comme ça qu'il imaginait Londres en 1984 alors que le roman était rédigé en 1948 et publié en 1949. J'aime aussi le fait qu'il se soit inspiré des régimes totalitaires de son époque, notamment le régime de Staline et de Hitler.
Du coup, on va vous lire trois citations. Donc moi j'ai choisi le slogan du parti qui est « Guerre et paix, liberté et servitude, ignorance et puissance ».
Moi, ma citation, c'est « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». J'aime bien cette citation parce qu'elle est plutôt marquante, surtout vers la fin, parce que O'Brien torture le personnage principal et essaye de le convaincre que 2 et 2 font 5.
Dans mon cas, moi, c'est « La guerre et la paix, la liberté et l'esclavage, l'ignorance et la force ».
Aujourd'hui, on va parler d'un roman dont l'autrice a eu le prix Nobel de littérature de 2022. Annie Ernaux est une professeure de lettres et une écrivaine française du XXe siècle. Elle est également connue pour ses autobiographies. Mais on va plutôt se concentrer sur le livre de la place, qui est publié en 1953. Ce qu'on a aimé. Pour ma part, j'ai aimé qu'elle parle de ses difficultés dans sa vie et des conflits avec sa famille. Et aussi, j'ai apprécié qu'elle rend hommage à son père. C'est plutôt attentionné de sa part.
Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai aussi aimé qu'elle évoque ses moments douloureux de l'enfance et qu'elle soit sincère. J'ai aimé que son père soit dans une classe sociale modeste, alors qu'elle monte en grade. Le récit s'ouvre sur un souvenir de la narratrice, la réussite d'un examen qui marque son entrée dans l'enseignement. Suite à cela, il y a eu la mort et l'enterrement de son père. La narratrice opère un retour en arrière. Cette analepse nous plonge dans ses origines familiales, la vie de ses grands-parents, l'enfance et la jeunesse de son père. Après la Grande Guerre, son père devient ouvrier et achète un commerce près du Havre, mais trouve toujours des difficultés financières. Il doit donc retourner à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille. Là, il y a eu aussi la mort de sa sœur qui arrive suite à cela. En 1940, Annie Ernaux est née. En 1945, ses parents achètent un commerce à Yvetot, un café-épicerie, ce qui provoque une évolution sociale et une amélioration de leur existence. Elle décrit son adolescence et ses études. Il y a eu l'apparition d'un fossé entre elle et ses parents. Nous retrouvons le père de la narratrice qui vieillit. Il tombe malade et suite à cela, elle rentre ensuite à l'école normale de Rouen, puis suit le départ pour Londres qui crée une incompréhension entre ses parents et elle. Ensuite, il y a eu la présentation de son fiancé envers ses parents, qui leur fait un soulagement. Ses parents la visitent souvent, malgré la dispute qu'il y a eu entre eux. La narratrice revient au début du récit en évoquant ses derniers moments de la vie de son père. Elle clôture le récit sur un événement récent et extérieur à l'histoire familiale, la rencontre d'une ancienne élève.
Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain, poète et aussi aviateur qui a disparu le 31 juillet 1944 en avion. Donc sa disparition reste mystérieuse parce qu'on ne sait pas si c'est les Allemands qui ont fait disparaître l'avion, etc. vu que c'était à la peur de la Seconde Guerre mondiale. L'avion a été retrouvé le 3 septembre 2003 à côté de Marseille. Il a eu une vie assez mouvementée parce qu'il y a beaucoup de fois il a failli perdre la vie. Donc voilà. Le Petit Prince. C'est un livre qui a été publié en 1943 à New York. C'est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. C'est un livre avec beaucoup de rapports avec la vie d'adulte, mais qui sont expliqués avec des termes un peu enfantins. Et quand on est quand on est à notre âge, donc adolescent voire adulte, on comprend différemment le livre de quand on est enfant. Mon avis sur le livre, c'est que le livre, je l'avais déjà lu plusieurs fois, donc du coup, quand j'étais enfant. Et plus les années passent, et puis plus on comprend différemment le livre, comme je l'ai expliqué avant. Notamment dans la façon de voir, les citations, etc. Du coup, voilà. Donc, on vous laisse avec quelques citations du Petit Prince.
Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. On n'est jamais content là où on est. Et on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Bonjour à tous, on est là avec OS.
Bonjour.
On va expliquer le livre L'écume des jours. On va parler de nos sentiments, de nos ressentis. Et commence OS par parler sur l'auteur.
Donc d'abord, Boris Vian, né le 10 mars 1920 à la ville d'Avray, Seine-et-Oise, est mort le 23 juin 1959 à Paris. Est un écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien de jazz, trompettiste et directeur artistique français. Comme vous pouvez le constater, il a fait pas mal de choses. Sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, il a publié plusieurs romans dans le style américain, parmi lesquels se nomme Écume des jours.
L'écume des jours explore diverses formes d'amour à travers ses personnages. Donc ces personnages, ils sont très bien développés car chaque personnage a un but. Par exemple, on trouve Colin qui a 22 ans et est célibataire et son but c'est de trouver son âme sœur. Il rencontre son ami Chick qui a le même âge et aussi vous trouvez son âme sœur.
C'est parti. C'est l'histoire de Heathcliff, un adopté par la famille Earnshaw. Lorsque le père de famille meurt, il est réduit à supporter les mauvais comportements. Il devient alors domestique. Il tombe amoureux de Cathy, mais même si leur amour est réciproque, celle-ci ne peut pas, car ils ne sont pas de la même classe sociale. Il va alors garder cette blessure au plus profond de son cœur, ce qui va nourrir sa vengeance.
Voici quelques citations. Je n'ai pu vivre sans mon âme, je n'ai pu vivre sans ma vie. De quoi que ce soit faite nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles.
Mais il y a aussi la citation « Si Edgar veut être vil et jaloux, j'essaierai de briser leur cœur en brisant le mien. »
Aujourd'hui, on va parler de Jack Kerouac et son œuvre la plus connue qui est « Sur la route », publiée en 1957. Jack Kerouac est un écrivain et poète américain. Il a d'ailleurs créé le mouvement Bi-Génération, c'est ce que vous entendez au fond. Il a écrit son roman Sur la route sur un rouleau de papier peint de 36 cm de long. Il a voulu vraiment représenter la route sur ce parchemin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période de sa vie qui est entre 1945 et 1950. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment essayé de chercher un sens à son existence. Donc c'est pour ça qu'il a voyagé et écrit ce livre. Et qu'en penses-tu, Tristan ?
Moi, je trouve que c'est un livre intéressant parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens en dehors et tout le monde m'a dit que c'était un classique. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un livre très différent de l'ordinaire dans le sens où quand on lit un roman, une œuvre, tout ça, on a l'habitude à ce qu'au début ce soit assez lent de manière à ce qu'on nous présente les personnages et qu'on puisse rentrer dedans très facilement. Et là c'est vraiment pas le cas. C'est très rapide, les actions s'enchaînent tout de suite du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que c'est un peu compliqué de rentrer dans la lecture et de vraiment plonger dedans. Mais une fois qu'on est dedans ça va très vite et c'est assez agréable à lire. Et je trouve que c'est particulier parce que j'ai jamais vu ça dans une autre œuvre. Et c'est vraiment, je pense, ce qui fait que c'est un classique. Et ça, je trouve que ça reflète aussi, je pense, ce qu'il a vécu pendant les années de sa vie de 45 à 50. Et toi, Lucas, t'en as pensé quoi ?
J'en ai pensé à peu près la même chose. Je suis raccord avec toi sur certains sujets. Mais je trouve surtout que si le livre, en soi, je pense que si on m'aurait dit « lis-le » et qu'on m'aurait pas obligé à le faire, je l'aurais pas lu du tout. En soi, je trouve que c'est assez dur de rentrer dedans et de vraiment s'intéresser. Mais après, quand tu y es, je trouve que tu peux pas t'arrêter. Personnellement, je trouve que c'est comme lancer une pierre, vu qu'en fait, en quelque sorte, tu la lances, mais tu peux pas l'arrêter quand elle est dessus. Et genre, t'es obligé de continuer le livre juste pour avoir la fin, pour savoir ce qui se passe à la fin. Je trouve que le livre, il a un côté assez attachant dans ça. On a toujours une envie de savoir plus. Et genre, c'est intéressant. Mais toi, Tristan, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre ?
Moi, il y a une citation qui m'a marqué en particulier parce que quand je l'ai lu déjà, on la repère, on voit vraiment que c'est quelque chose d'important que l'auteur il a vraiment voulu montrer. Et quand on a fait des recherches sur le livre, c'est vraiment une citation qui est revenue beaucoup de fois. Donc c'est la suivante. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient des choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent. Ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Et je trouve que ça fait vraiment écho, déjà à l'époque, et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que c'est encore un livre qui est d'actualité. Parce qu'on parle de changement de la société. Et je sais que beaucoup de gens pensent à ça. Donc je trouve que ça fait beaucoup écho et on peut vraiment s'identifier là-dedans. Et il parle au début, il fait une longue énumération de plusieurs de personnes en fait, les fous, les marginaux, les rebelles, tout ça, qui montre qu'en fait n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et c'est un peu, je pense que c'est un peu, on va dire, le bilan de cette période de sa vie où il a été beaucoup perdu, que n'importe qui peut faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait, qu'on peut faire ce qu'on veut et du moment qu'on se donne les capacités et qu'on essaye d'y arriver.
Personnellement, moi, ce qui m'a marqué, ça serait cette citation. J'oublie l'absurdité de ma vie, page 81. En fait, je trouve que c'est assez intéressant vu qu'on se pose souvent beaucoup de questions sur la vie, sur pourquoi on est là, où on est, etc., etc. Et je trouve qu'en soi, on voit que lui, il a, comment dire, un point de vue assez différent sur la vie et sur pourquoi il est là. En fait, on a l'impression dans le livre que le personnage principal essaye plutôt, le personnage principal et Jean essaye plutôt de profiter de sa vie, de profiter de sa jeunesse, des plaisirs, etc. Et en fait, en voyant ça, je trouve que ça c'est intéressant vu que ça nous montre qu'en fait, il y a plusieurs philosophies de la vie, il y a plusieurs choses qui, il y a plusieurs façons d'être en soi.
J'aimerais rebondir sur ce que tu dis dans le sens où c'est vrai que dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique une philosophie de vie un peu idolâtré, que personne ne tente en fait, parce que c'est vraiment le profit de la vie dans ses méandres, entre guillemets. Et il part sans argent, il se retrouve à la rue sans argent, à marcher un peu n'importe où, à coucher avec n'importe quelle femme. Et je trouve que cette citation que tu as relevée est vraiment intéressante parce que il oublie vraiment l'absurdité de sa vie en faisant tout et n'importe quoi en fait.
Bonjour, mes camarades et moi, on va vous présenter La Peste d'Albert Camus. Mais avant tout, on va vous présenter qui est Albert Camus. Albert Camus est un écrivain français qui est parti à Paris car il était malade, il a atteint de la tuberculose. Avant, il vivait en Algérie. C'est un gardien de foot, mais dû à sa maladie, il a dû arrêter. Arrivé en France, il est arrivé pendant la France occupée. Donc, ça a été une époque très dure. C'est pour ça qu'il a écrit, La Peste en soi. Il était résistant et aussi journaliste. Il a été connu pour un de ses ouvrages, L'étranger. Il a eu le prix Nobel en 1957 pour celui-là. Et il a aussi essayé plusieurs genres littéraires. Le théâtre, par exemple, et le roman. L'essai. Donc La Peste est un livre qui est sorti en 1947, juste l'après-guerre, où dedans il va dénoncer le nazisme, l'arrivée du nazisme en France et chez la plupart des habitants, la montée du nazisme. Donc l'histoire se déroule en Oran, en Algérie française. Et on apprend que d'abord ça parle du docteur Drieu qui va voir un rat mort devant chez lui mais qui ne va pas prêter grande attention. Les jours passent et plus de rats morts se retrouvent dans la ville, on les enlève. Et d'un coup, une pandémie arrive due à cela, qu'on appelle la peste. Ils ont dû mettre la ville en quarantaine. Ils ne devaient que parler par télégramme. Et voilà. Mais donc dans le livre, il a voulu décrire avec la peste brune, qui fait référence aux soldats nazis, les SS, parce qu'ils étaient appelés comme ça à l'époque. Et ils voulaient faire savoir la montée chez les habitants. Et aussi, on peut voir aussi, comme cela, avec un lien avec le Covid-19. Par exemple, en 2020, qui est monté, le Covid, la quarantaine, le fait de ne plus pouvoir sortir dehors, on peut faire des parallèles avec le livre comme ça. Ça s'appelle... ça s'appelle une allégorie, quand on va parler dans un livre de ce qui se passe pour dénoncer un fait réel, ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà.